Si je devais donner une, si tu peux juste faire un, tu sais comme on a l'habitude, couper les comment dire le rail ici et va tac juste à côté, c'est ça et plus à côté là-bas. Non, pas celui-là. Yes, celui-là. Yes, c'est comme ça. Parce que je vais beaucoup m'utiliser du comment dire du PowerPoint. Il a vraiment du mal ce micro. Je vais peut-être essayer un autre ici. C'est OK, Germain? Non? Ouais, celui-là. Celui-là. Je te laisse faire quelque chose. Je vais parler de l'autorité spirituelle ce matin. Autorité spirituelle, les principes et les fonctionnements de l'autorité. Très rapidement, je vais prendre un premier texte biblique qui va s'afficher ici. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multiplissez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez les poissons et les mers, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu leur dit, voici, je vous donne toute l'herbe de la semence qui est à la surface de la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de semence, ce sera notre nourriture. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné une mission qui était d'entretenir et de cultiver le jardin. Entretenir et cultiver, c'est à l'image de notre relation qu'on doit entretenir et cultiver avec Dieu, mais aussi, il leur a donné, il a dit, je vous donne le pouvoir, dominez, assujettissez. Et quand vous prenez dans le texte hébreu de l'époque, le mot dominer, c'est exousia, c'est-à-dire, littéralement, c'est comme un intendant qui exerce un pouvoir, une autorité. D'accord? Du coup, prochaine diapo, avant même la fondation du monde, non, ouais, bon, ok, juste reste là. Avant même la fondation du monde, Dieu avait un plan pour vous, pour moi, c'est que, alors qu'il a créé l'homme, c'est qu'on puisse régner sur terre. Vous êtes là? C'est qu'on soit des reines et des rois. Il nous a confié une autorité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la fondation du monde, vous vous rappelez, il y a eu Lucifer, qui a refusé de se soumettre à Dieu. On va le voir ensemble. Il a refusé l'autorité de Dieu, qui était au-dessus de sa vie. Et quelque part, il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée dans le ciel. Et il y a ce moment-là où Jésus revient, et la Bible nous dit que Jésus est le deuxième Adam. D'accord? Donc Jésus, quand il vient sur terre, il revient gagner le match que Adam a perdu. Vous êtes là? Donc Jésus va être tenté comme nous, et alors qu'il jeûne pendant 40 jours, 40 nuits, alors qu'il a faim dans sa chair, Satan vient au bon moment, il ne vient pas au bout du 15e jour, ni au bout du 20e jour, il vient tout à la fin quand il est extrêmement faible. Et il lui fait une proposition. Il lui dit, écoute, Satan était au courant, écoutez bien ceci, c'est tellement puissant. Satan savait que Jésus venait reprendre l'autorité que Adam avait perdue. Et quelque part, Satan dit à Jésus, écoute, plutôt de souffrir la croix, je te propose un chemin de facilité. Honore-moi. Soumets-toi à moi. Et voici ce qu'il dit dans ce texte-là. Le diable entraîna sur une autre hauteur. En un instant, il lui montra tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que toutes les richesses, la gloire de tous ces royaumes, car cela m'a été remis. Qui lui a remis? Certainement pas Dieu. Qui a remis au diable l'autorité, la gloire des royaumes? Qui? C'était Adam. Et Adam, quand il s'est rebellé, quand il a désobéi à l'autorité suprême de Dieu, il a perdu sa propre autorité. Vous êtes là? Et du coup, il a remis, enfin, il l'a laissé, et le diable l'a repris. C'est dingue. Du coup, Jésus, quand il vient reprendre cette autorité à Satan pour la donner à son Église. C'est extraordinaire, c'est incroyable, n'est-ce pas les amis? Et moi je me posais la question, mais quand on voit cette image-là où le diable discute avec Jésus, qu'est-ce qu'a dû ressentir Jésus quand il parlait à celui qui a divisé le ciel, le royaume de son Père? Qui a semé la division en essayant de convaincre. Et là, c'est incroyable, parce qu'il essaye de convaincre Jésus de se rebeller à l'autorité de son Père. Mais Jésus est resté soumis à son Père. Il a repris ainsi l'autorité que Adam avait perdue. Il a remporté le match là où Adam avait échoué. Il nous donne, il nous le confie à nous, ses enfants, pour que nous régnions à nouveau sur terre. Waouh ! Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais Joe, sur terre, il y a quand même des guerres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le monde va mal. Et en fait, Jésus a repris une autorité de principe, mais pas dans les faits. Et dans les faits, il attend que son Église libère sa puissance, libère le surnaturel, libère l'onction. On a besoin d'activer le royaume partout où nous allons. Du coup, Satan est le premier habitant de l'enfer, de tous ceux qui ont suivi son chemin, de tous ceux qui l'ont cru. Et du coup, moi, il y a une question que je me pose. Je pense aux anges qui sont dans le ciel, qui l'ont suivi. Je leur dis, est-ce que la déception, leur déception était due au fait que dans le ciel, ils étaient pas assez bien? Ok, je vais le reporter. Les anges, parce que, oui, je refais la petite histoire. Vous savez que quand Satan a chuté, quand il s'est rebellé avant Adam et Ève, hein, fait un flashback tout en arrière, il a séduit, la Bible nous dit, un tiers des anges qu'il a amenés sur la terre. Ces anges qui étaient magnifiques dans les cieux sont devenus des démons sur terre. Et ces anges-là, avant de devenir déchus, la question que je pose, est-ce qu'ils étaient... Est-ce que le ciel n'était pas assez bien pour eux? Non, il n'y avait rien de plus parfait. Est-ce que ces anges vivaient dans un environnement où il y avait le péché? Non, le ciel était parfait. Ils étaient environnés de gloire. Le problème, les amis, n'est ni le lieu, ni le contexte dans lequel ils se retrouvaient. Le problème était qu'ils ont prêté l'oreille à la mauvaise voix. Et souvent, Satan vient vous vendre le fait que l'herbe est plus verte ailleurs. Et parfois, ça peut être de l'herbe synthétique. Faites attention où vous allez. Du coup, Lucifer n'a pas cherché à convaincre que Dieu n'existait pas. Il contemplait la gloire de Dieu. Il les a juste convaincus que Dieu était un problème, que l'autorité sous laquelle vivait était une prison. Et en gros, faut que tu sois libre. Vive la révolution. Et il y a deux images ici de l'autorité. Et il y a beaucoup de gens, quand on leur parle de l'autorité, regardez, les amis, regardez-moi. Soyez soumis. Combien des gens ont du mal avec ça? Ça fait froid dans le dos. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise perception de l'autorité. L'autorité, voici comme on la voit. Tiens, si tout le monde voit bien l'écran. Quand les gens pensent à l'autorité, ils pensent à l'image qui est juste à droite. Un homme qui a du pouvoir, qui manipule les gens, qui manipule les foules. Et ça, c'est l'autorité. Du coup, à gauche ou à droite? Où est ta droite? Ah oui. Mais où elle est la droite? C'est là où il y a le pouce à gauche. Bon, ok. Et, du coup, on a du mal à se soumettre à l'autorité, on a du mal à penser l'autorité, surtout quand cette autorité, elle n'est pas bienveillante, vrai. Sauf que dans le monde spirituel, comment Dieu voit l'autorité, c'est l'image qu'on a à droite. C'est quelqu'un qui vient et qui donne sa vie. Jésus, modèle suprême, j'avance rapidement. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel qui était en forme de Dieu, n'a pas... Regardez comme une proie à Rachel d'être à l'égal de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Il est roi et il s'est humilié. Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort, il a souffert en étant soumis à son Père. Wow ! Moi j'accepte d'être soumis, mais quand tout va bien. mais de souffrir, hors de question. Et Jésus a accepté le plan divin du Père, quand bien même il y aurait de la souffrance qui serait rattachée à ça. Ok, j'avance rapidement, parce qu'il y a pas mal de choses à voir ce matin. Point numéro 1. Du coup, à quoi sert l'autorité ? Dieu voit l'Église comme une armée. Prochaine diapo. Et l'autorité, elle est là pour, elle est donnée pour protéger, pour amener à l'autonomie. L'autorité, c'est une couverture spirituelle contre les flèches du malin. Et au sein de l'Église, elle est exercée dans le fonctionnement pour faire grandir le peuple de Dieu. Et du coup, vous savez, il y a plusieurs modèles d'Église, de fonctionnement d'Église. Souvent, il y a, en général, dans une Église, t'as un pasteur qu'on rémunère à temps plein et le pasteur, il fait tout. C'est-à-dire, il va voir les gens, il s'occupe des gens, etc. Il est payé pour ça. Aujourd'hui, dans notre modèle d'église, je ne suis plus, en tout cas, rémunéré par l'église pour être pasteur et voyager et rencontrer tout le monde. On a mis une organisation d'église différente. On a mis ce qu'on appelle des braises. Des braises, c'est pas là où on fait le barbecue, mais c'est des petits groupes de maisons. Et ces petits groupes de maisons-là sont le poumon même de l'église. Si vous voulez vous investir, vivre la vie de l'église, fréquentez une braise. Et dans cette braise-là, il y a des gens qui ont une délégation, une délégation d'autorité pastorale. C'est eux, je dirais presque les vrais pasteurs de l'Église, parce que c'est eux au quotidien qui prennent soin des gens. D'accord ? Et eux, ils sont là à prier, etc., etc. Et du coup, on a vraiment voulu organiser l'Église de cette façon-là. Du coup, on a un mandat divin que Dieu nous a donné. La Bible nous dit, Jésus, il nous dit, bah voilà, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée, allez donc. Et du coup, on est rentré dans cette mission d'exercer l'autorité de Dieu dans cette ville de Grenoble. C'est ça notre mandat. Et il y a plusieurs types d'autorité. Il y a une autorité sur les puissances spirituelles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, il parle de toi. Ils chasseront les démons. Bon, il y a Josette qui a dit amen. Ils chasseront les démons. Amen. À quand remontent les derniers démons que tu as chassés ? Ok, je continue. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas donné à des pasteurs, il a donné à l'Église, à vous. Je vous ai donné le pouvoir, exosia, je vous ai donné la puissance de marcher tout sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus, quand il est venu sur terre, il a dépouillé l'autorité que Satan avait. Il n'en a plus. Alléluia! Ok, on continue. Résistez au diable, il fuira de loin de vous. Et donc, dans cette idée, juste après, il est dit, soumettez-vous à Dieu. Donc, il y a résistez au diable, soumets-toi à Dieu. C'est comme ça que tu gardes ta puissance. Il y a également une autorité dans l'intercession, dans la prière. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est cette dimension où on a cette capacité, en tant que chrétien, de délier des situations, des choses sur la terre, là où personne n'arrive à débloquer. T'as cette capacité-là. Et là, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est pas... Ah, ouais, c'est vrai. Ben oui, mais tu l'as juste jamais utilisé, cette force et cette puissance. Moi, j'ai commencé à voir des miracles le jour où j'ai commencé à prier pour des gens. Est-ce que j'ai tout le temps vu des miracles ? Pas tout le temps. Mais c'est pas moi qui fais les miracles. Moi, mon travail, mon job, c'est de prier pour les gens qui sont malades, qui sont possédés, et Jésus fait le reste du travail. Ok, je continue. Dieu nous a donné également une autorité pour décréter, pour proclamer. Tu décideras, tu diras, la chose s'accomplira. La mort et la vie sont au pouvoir de là. Faites attention comment vous parlez. Faites attention à ce que vous dites. Je suis nul. Je suis un idiot. J'y arriverai jamais. Bah, tu sais quoi, t'es prophète ? Tu parles sur ta propre vie, c'est ce que tu vas voir. Faites attention. Et il y a également une autorité d'identité positionnelle. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait assire ensemble sur les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu crois que tu es assis ici au 32 rue de Barnave sur une chaise ? C'est faux. Dans le monde physique, peut-être. La réalité, c'est que dans le monde spirituel, Jésus te voit assis à côté de lui dans les lieux célestes. Et encore une fois, si vous ne percevez pas ça, si ce n'est pas votre position, et encore, ben, y a tout un pan de la vie chrétienne, un pan de la puissance de Dieu qui est à côté. que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Obéissez. Obéissez à vos conducteurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Obéissez à vos conducteurs. Soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes et ils auront des comptes à rendre à Dieu. Bon, il y a une première partie du passage, on a du mal, mais la deuxième partie, les amis, elle est pour moi. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, Jonathan Valbon, il y a un jour, je vais arriver devant le trône de Dieu et Dieu va me demander des comptes à moi. Comment est-ce que tu as traité telle situation? Comment est-ce que, quand je t'ai envoyé telle personne, est-ce que tu as reflété mon caractère, mon amour? Est-ce que tu as été dans mon cœur? Et moi, je flippe. Vous comprenez? J'ai une part de responsabilité. De la même façon que vous, vous avez un pourcentage de responsabilité dans votre domaine. Est-ce que c'est clair? Ok, je continue, j'avance. Du coup, le rôle d'un leader, mon rôle, notre rôle à une équipe, je vais avancer un peu plus loin, c'est de veiller sur le troupeau que Dieu nous confie. Car nous allons rendre compte à Dieu. Jésus veillait sur ses disciples. Il y a un moment donné, il dit à Pierre, « Pierre, Pierre, Satan a voulu te cribler comme on crible le froment, mais j'ai prié pour toi. » Donc Jésus veillait sur ses disciples. Il priait pour eux. Et régulièrement, Elisa est témoin, elle n'est pas là, mais régulièrement on prie, très 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 régulièrement, si ce n'est, et pas tous les jours, mais en tout cas très régulièrement pour l'Église, pour vous. On est là dans les salons, on prie pour Connect Grenoble, on prie pour les Merles, on prie pour Josette, on prie pour les Dines, on prie pour tout. On prie pour les gens ici. Ouais, c'est cool, il y a quelqu'un qui prie pour moi. Et toi, est-ce que tu pries pour nous? J'ai du mal à prier pour moi. Ouais, mais est-ce que vous comprenez qu'on a besoin aussi de vos prières? Est-ce que vous savez que de temps en temps, le diable nous attaque à nous aussi? Vous n'êtes pas les seuls à être attaqués? Ok, je continue. Et quand je ne suis pas soumis, écoutez bien, la soumission, c'est très important de comprendre ça. La soumission, c'est d'être sous la mission de quelqu'un. Ok, je vais le redire. S'il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'autorité spirituelle. Parce que Dieu nous a confié une mission ici, sur Connect Grenoble. Tu as la possibilité de rentrer sous cette mission ou de vivre ta vie comme tu le veux. Mais quand tu viens te greffer à cette mission, tu acceptes le rôle que Dieu a défini à des gens. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a une limite à cette soumission? On veut bien être soumis, mais jusqu'où? Prochaine diapo. Ben c'est Pierre, dans Acte 5, verset 29, il dit « il y a une limite ». Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a une limite à la soumission humaine, c'est quand elle contredit l'autorité de Dieu au travers de la parole de Dieu. Quand, si un jour je viens à prêcher quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, les amis, fuyez! Et d'ailleurs, avant que vous fuyiez, je crois que c'est les autres qui vont me mettre à la porte. On a pris des contre-pouvoirs volontairement. On partage le leadership avec d'autres gens et j'accepte qu'il y ait d'autres gens qui parlent dans ma vie. C'est des protections pour vous et pour moi-même. Donc moi, Jonathan Valbon, avec Elisa, nous sommes soumis à d'autres pasteurs, notamment l'église de Montélimar, et on aime cette intersoumission. On aime être sous la mission d'autres, parce qu'on a reçu qu'on allait saisir le Dauphiné pour Jésus, et c'est pas simplement moi, mais c'est ensemble. Vous êtes là? Du coup, la soumission, elle a quand même une limite. Quand cette soumission, elle ne vient plus, elle vient plus être sous l'autorité de Dieu, elle vient plus être sous cette mission, que le leader, il part complètement en vrille. Voilà, on va dire les choses telles quelles. Donc, comment reconnaître une autorité spirituelle abusive? Ou même chez un leader, chez un croyant. Ben souvent, parmi les leaders, c'est quand ils se positionnent comme un intermédiaire indispensable entre vous et Dieu. T'as besoin de Dieu, t'as besoin de moi pour entendre la voix de Dieu. T'as besoin de moi que je prie pour toi. T'as toujours besoin du leader. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Vous êtes là? Il décourage Les questions, la pensée critique, le doute. On n'a pas peur des questions, on essaye de répondre aux questions. Ça veut dire qu'on est toujours d'accord, mais en tout cas, on n'a pas peur de répondre à des questions, à ce que Dieu nous demande de faire. Il revendique souvent une autorité ou une révélation que personne ne peut remettre en question. J'ai vu un ange, Dieu m'a parlé. Puis il y a toujours cette dimension, j'ai compris quelque chose qui est au-dessus de tout le monde, inatteignable. Et ça, par contre, c'est dangereux. Il isole les membres des relations extérieures. Coupe-toi de telle personne, ne va pas, parle plus à un tel, ne fais plus ceci, ne parle pas à un tel. Il y a quelque chose qui est un peu abusif là-dedans. Il utilise la culpabilité, la honte, la peur comme des outils de gouvernance. Par rapport à lui-même, il y a toujours deux poids, deux mesures. J'impose des règles aux autres, mais pas pour moi-même. Le sentiment d'être choisi, d'être irremplaçable, persécuté, tout le monde m'en veut, les gens ne me comprennent pas quand je suis critiqué. Il confond sa vision personnelle avec la volonté de Dieu. Mais parfois, chez un croyant, pareil, on peut avoir une espèce de soumission abusive, mais parfois même c'est plus subtil et c'est souvent mal orienté. Quand un croyant ne lit plus la Bible, l'Écriture, pour vérifier ce qu'il entend. Et parfois, l'autorité spirituelle chez un croyant, c'est compliqué, c'est que souvent, on vient ne dépendre de personne. Non, mais moi, pasteur, le Saint-Esprit me parle. Ah bon ? Ah, c'est bien. Et nous, il nous parle aussi. Il y a cette volonté, quand on est en intersoumission, de soumettre ce que je pense avoir reçu de Dieu. Est-ce que tu crois que c'est ça ? Et puis, n'hésitez pas même à le partager à des gens qui sont matures, à ton responsable de braise. Est-ce que il y a pas de problème à avoir un double check ? Vous êtes là ? Je dépends de personne. Le Saint-Esprit me parle à moi tout seul. Ou parfois même, je délègue ma conscience à quelqu'un d'autre, à mon pasteur, à un frère. Et en fait, c'est quasiment, je n'entends plus Dieu pour moi, c'est seulement les autres qui vont l'entendre à ma place. Il y a un danger à cela. Et je précise qu'il peut y avoir des périodes dans ta vie où le ciel est des reins, où j'entends plus la voix de Dieu, et j'ai besoin des frères et sœurs qui vont me rappeler la vérité. Ça peut être ponctuel, mais les gens ne peuvent pas vivre ta spiritualité à ta place. Le but quand même, c'est que tu entends Dieu pour ta vie. J'avance. Souvent, parfois, il y a des gens qui vont se donner un titre avant le fruit. Je suis un apôtre, je suis un ministère ceci, je suis cela, je suis biceps, je suis triceps. Et moi, souvent, quand je vois des personnes comme ça, la question que je pose, c'est à qui est-ce que tu es soumis ? De quelle autorité tu dépends ? Et là, tout de suite, vous voyez. Tu vois le cœur en général de la personne. Quelle église t'envoie ? Donc l'autorité exercée de Dieu est exercée dans un cadre. Dites avec moi un cadre. L'autorité que Dieu nous a confiée, là je parle pour moi, Jonathan, Elisa et notre groupe, le cadre, c'est la mission que Dieu nous donne à Connect Grenoble. En dehors de cette mission-là, je n'ai pas d'autorité. Ok, je vais le redire. L'autorité que Dieu me donne est définie dans un cadre. Et c'est important qu'elle soit dans ce cadre-là. En dehors de ce cadre, de cette mission, de Connect Grenoble, ça ne me regarde pas. Et je vais l'illustrer pour que vous puissiez bien comprendre. Quand un leader contrôle ta vie hors du cadre de l'Église, hors de sa mission, de son mandat, cela devient une secte. J'ai un ami à moi qui me dit, je visite une église, je vais taire le nom, je visite une église, et à un moment donné, il me dit, je me sens trop mal à l'aise, parce que j'étais en train de discuter avec le pasteur principal de l'église, et t'as quelqu'un qui vient avec un vélo, il s'arrête à côté de ce pasteur, il dit, pasteur, est-ce que je dois acheter ce vélo ou pas ? Et puis le pasteur, il dit, attends, je connecte avec Dieu, non, ben ok, vas-y, tu peux l'acheter, c'est bon. Ça, c'est dangereux, les amis. T'as pas à demander au pasteur ce qui se passe dans ta maison. Alors, tu peux demander peut-être conseil. Mais encore une fois, quand on sort du cadre de ce qui se fait dans l'Église, c'est dangereux. En Italie, je vous donne des petits tips comme ça, en Italie, pour demander la main d'une jeune fille, tu peux pas aller la voir elle directement. Imagine, je suis célibataire, j'ai des sentiments pour elle, tu vas voir le pasteur. T'imagines le contrôle? Et c'est le pasteur qui doit aller voir les parents ou la jeune fille. Mais tout passe par le pasteur. Donc le pasteur, c'est Dieu. Il a le droit. Mais c'est super dangereux. Ai-je le droit de sortir avec des amis de Connect? Puis j'allais faire des courses, puis j'allais faire de la couture, de la planche à voile. Les amis, vous êtes libres. Faites ce que vous voulez. Tant que c'est bien et que c'est selon la parole de Dieu. J'ai pas mon avis à donner là-dessus. Vous êtes là? À la maison, je suis libre. Dans ta maison, écoutez les amis, dans ta maison, le chef de ta maison, c'est pas ton pasteur, c'est ton mari. Je m'attendais à un amen masculin. Un amen genre des hommes. Oh, amen, chérie. Donc je vais le redire. Dans ta famille, c'est pas le pasteur le chef de la famille. Allô? Et en fait, il y a vraiment cette volonté d'être en intersoumission, même dans une famille. Et comprenez, la pensée, les amis, c'est que dans le cœur de Dieu, je crois de tout mon cœur, c'est qu'il y a la femme est soumise à son mari. Et tout de suite, l'apôtre Paul, il dit, mais Marie, soyez prêt à mourir. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Donc à tous les gars qui viennent et qui disent « Chérie, j'ai l'autorité !» Ouais, mais est-ce que tu es prêt à prendre une balle pour ta femme? Combien de femmes n'ont pas de problème à être soumises à un homme qui est prêt à mourir pour elles? Et souvent, les femmes deviennent des hommes quand les hommes ne sont plus des hommes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué un peu dans le monde dans lequel on est, comment Satan attaque la masculinité, attaque les pères, pour que des hommes soient plus des hommes et qu'ils font barrage pour protéger leur foyer. Parce que Dieu a remis cette autorité à des mecs, à des gars, que tous les gars disent amen, amen, pour faire rempart devant les loups et les lions. Et si vous ne prenez pas les gars cette autorité-là, quelqu'un d'autre le prendra à votre place. Ok, j'avance, je sors un peu du cadre, excusez-moi. Du coup, à l'Église, c'est dans le cadre de cette Église que nous avons l'autorité. Mais je ne peux pas gérer ce qui se passe dans votre maison. Je n'en ai pas le droit, ce n'est pas ce que Dieu me demande. Est-ce que vous me suivez? Parfois, il y a quelqu'un ici dans l'Église que je vais taire, qui m'a appelé comme une amie, en me disant, bah, tiens, il y a un héritage, il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce que toi t'en penses? Mais elle appelle, pas le pasteur, elle appelle un ami. Vous comprenez? Mais je n'ai pas à définir ce qui se passe dans ta maison. C'est ta responsabilité. Ok, je continue. C'est super important. Parce que quand il y a quelqu'un, et on a vécu cela enfant, et ça a été compliqué, mes parents m'ont souffert aussi, c'est que quand quelqu'un vient dans ta propre maison diriger ce qui se passe, c'est là où ça ne va plus. Du coup, et quand je reçois à la maison, quand l'église est à la maison, quand il y a un groupe de maisons, est-ce que c'est encore l'Église? Parce que il y a un peu les frontières qui sont gommées, n'est-ce pas? Je reçois l'Église à la maison, il y a toujours cette zone grise. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le droit de prier ensemble? Est-ce qu'on a le droit de prier ensemble? Est-ce qu'on a le droit? Bien sûr, on espère que tout le monde, vous priez pour les gens, priez pour votre voisin, votre voisine, on espère. Et par contre, là où parfois ça devient un peu important, c'est l'apôtre Paul qui dit « n'impose pas les mains avec précipitation ». Quand vous imposez les mains, vient la Romain, c'est comme une prise de courant. Tiens, impose-moi la main. Et là, tiens. Boum. Oh, je reçois quelque chose. Et en fait, c'est... Ouais, laisse-moi t'imposer les mains, je sens que tu as besoin de... I got the power. Quand on impose les mains, c'est comme une prise de courant. Et on peut vous envoyer des choses qui ne sont pas de l'autorité de Dieu. Et inversement. Merci, Rome. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es à l'église, ou quand tu es... Et c'est là où parfois c'est un peu subtil, et c'est, écoutez bien, c'est souvent là que le diable s'infiltre. c'est quand il y a un petit groupe de croyants qui dit on est dans l'amour, on va prier les uns pour les autres, et c'est génial, waouh. Et moi, mon cœur, et c'est notre cœur à nous, c'est un peu comme Moïse dit, puisse tout le monde prophétiser, puisse tout le monde être spirituel, c'est notre cœur. Mais la question à se poser, c'est à ce moment-là, est-ce qu'on est sous la mission que Dieu a confiée, par exemple, à Connect Grenoble? Est-ce qu'on est dans ce cadre? Est-ce qu'on est, et là, c'est mon responsable de Braise, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il a validé? Est-ce que je suis protégé dans un cadre d'autorité spirituelle qui me protège? Est-ce que vous êtes là? Et quand tu sors de ce cadre-là, et encore une fois, l'autorité, elle n'est pas là pour dominer, elle est là pour rendre à l'autonomie, pour vous rendre fort, pour vous rendre puissant. Mais dès que tu sors de ce cadre-là, c'est là où Satan est comme un sniper en embuscade et il attend que tu sois découvert en disant « Ah, elle est plus solo, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus personne. » Et boum, il tire. Laissez-moi vous donner un exemple. J'étais un jeune, j'avais 17 ans, on se trouvait à Saint-Laurent-du-Pont. Et il y avait, pour ceux qui l'ont vécu et connu, il y avait des réunions de fire, de fous furieux. Dieu était là, la puissance de Dieu agissait, des gens étaient guéris. C'était juste dingue. Combien ont vécu Saint-Laurent-du-Pont, il y en a quelques-uns, les maires, des réunions, mais tu sortais de là, tu avais le cœur, waouh, on avait touché le ciel et c'était fou. Et je me rappelle un jour en particulier qui a été un moment marquant pour moi, où j'ai beaucoup compris de choses d'origine spirituelle, comment ça marche, ses fonctionnements, ses principes, autorité, etc., etc. Et moi, j'avais 17 ans, 18 ans, et il y avait un jeune troupeau d'adolescents qui était là, avec toute la fièvre des jeunes ados, pré-ados, 12, 13, 14 ans qui étaient là, et puis ils étaient dehors, et ouais, allez, et puis ils étaient devant, en feu pour Dieu. Et il y a un moment, alors qu'ils étaient à l'extérieur, c'était le soir, réunion du soir. Moi, je les supervisais un petit peu comme un grand frère bienveillant. Et il y a une jeune fille qui vient, qu'on ne connaissait pas sur le camp, qui était dans une chaise roulante handicapée. Qui vient, elle se met là, au milieu de ces jeunes. Et moi, je la vois au loin, il y avait un chapiteau à l'extérieur, où on prenait les repas. Et puis les jeunes sont là, et puis commencent à discuter. Bref, je vous le fais simple. Il y a un moment donné, il y a un des jeunes un peu plus élevé qu'un autre. Il a fait « Waouh, Jésus va te libérer et Jésus va te complètement guérir et tout. Et allez, lève-toi et marche. » Et ils se sont mis tous à lui imposer les mains. Est-ce qu'ils avaient de la foi? Très certainement. Est-ce qu'ils étaient autorisés à le faire? Non. Est-ce qu'ils étaient sous l'autorité de quelqu'un dans la mission? Non. Et ils se sont mis à prier pour elle, mais avec un bon cœur. Allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il y a un moment donné, un des garçons m'a raconté, cette jeune fille-là s'est mise à pousser un rire, mais il a dit c'était un rire de l'enfer. Elle s'est mise à rire, mais il a dit j'en ai eu des frissons dans le dos. Et puis elle est partie. On la connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et une heure plus tard, donc nous on était dans la réunion, moi je n'ai pas assisté à cette scène, j'étais juste à côté de la, au bout, à côté de la porte, quoi. Mais je les voyais en visuel. Et il y a un moment, il y a une jeune fille, je m'en souviendrai toujours, petite blondinette. Elle était là, elle était en train de discuter. Et tout d'un coup, elle dit au garçon à qui il parle, « Ils vont venir me chercher. » Elle se lève et elle court à l'extérieur du camp. Il y a une voiture qui arrive, elle tend les bras comme ça, genre une scène de film, genre « Je veux que la voiture m'écrase. » L'autre petit garçon, mais une série de Netflix, quoi. L'autre petit garçon lui court après, mais qu'est-ce que tu fais? Et quand elle voit qu'elle veut se suicider, il la pousse, la voiture, elle passe juste à côté, mais vous êtes fous, là, 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 là. Il l'attrape par le callback, il la rentre dans le camp, et là, j'entends des cris, et c'est à ce moment-là où je viens. Il la traîne, et puis elle pleurait, lui pleurait, ouais, on sait pas ce qui s'est passé, elle a voulu se tuer. Elle a voulu se tuer dans un environnement sain comme le nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas, elle avait des regards. Il pleurait, il me dit, Jonathan, elle s'appelait Marie. Il me dit, son visage n'était plus le même, je ne sais pas ce qui se passe. Et elle était comme possédée. Ben, je lui dis, ben, si elle était comme possédée, c'est peut-être qu'elle est possédée. Il me dit, mais je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne sais pas, on priait, on était bien. Vous avez prié pour quoi? Pour qui? Ben, il y a une jeune fille qui était là, on s'est mis à lui poser les mains. Elle est où? Ben, on ne sait plus. Hein. Ok. Et tout d'un coup, tous les jeunes adolescents qui avaient prié pour la jeune fille commençaient à manifester des troubles pathologiques. On a pris tous les adolescents à 15, je m'en souviendrai toujours, c'était tout un truc avec Pierre Truchel, etc., Patrick Chambon. On les a tous amenés devant à la fin d'une réunion, on a tous prié pour eux, et là, c'était banqueroute. Les gamins tombaient sous la puissance de Dieu, mais il y avait des choses qui sortaient qui n'étaient pas là avant. Vous êtes là ? Donc, moi, ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, c'est comme une prise de courant. Soit tu amènes la puissance de Dieu, soit tu récupères quelque chose que Dieu n'a jamais voulu te donner. Et ça, ça dépend du cadre et de l'autorité avec laquelle tu as la soumission, la mission que Dieu t'a donnée. Écoutez bien ceci. Quand Dieu te donne une autorité, quand tu as une mission. Si tu n'as pas de mission, tu n'as pas d'autorité. Vous êtes là ? Et c'est pour ça que quand vous êtes dans la mission de Connect Grenoble, il y a une autorité qui est là. Quand à l'église, conférence Cœur du Père, on dit « levez-vous tous ensemble, priez pour votre voisin à droite, à gauche », là, il n'y a rien qui peut se passer, entre guillemets, parce qu'il y a une protection. Tu es là ? Quand bien même on te demande de prier là, dans ce cadre-là, mais ce cadre-là est extrêmement défini. Je vais un peu plus loin. Faites attention à ceux qui prient pour toi. Parfois, on a des gens ici qui vont te prier dans le couloir. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, il y a Jean-David qui fait des formations pour les équipiers de prière. On donne des règles, on donne des préconisations, des recommandations. On fait attention à qui prie pour les gens ici à l'église. On ne laisse pas les gens n'importe qui prier pour toi. Non pas qu'on est contre la liberté, au contraire, on est pour la liberté. Mais on fait attention à qui va prier pour les gens. Notre but est de protéger les gens que Dieu nous amène. C'est notre responsabilité. Vous êtes là ? Donc, attention, attention même aux paroles de Dieu que vous recevez. La Bible, elle nous dit que vous devez vérifier l'enseignement qu'on vous donne. Moi, quand je vous dis des choses, regardez si c'est biblique. Vous avez le droit, je vous autorise, vous avez cette possibilité-là. Et quand quelqu'un, quand bien même, vous recevez même une prophétie, quelque chose, vous êtes en droit de dire, écoute, moi, je ne reçois pas ce que tu me dis comme venant de la part de Dieu. Ça ne me parle pas. J'ai reçu que tu devais aller en Chine la semaine prochaine. Eh bien, écoute, tu iras en Chine, toi, si tu veux. Mais pas moi. Vous comprenez ? Et puis, parfois, il y a des gens un peu, des chrétiens qui viennent, qui sont un peu dans le doute. Il m'a dit que je devais aller en Chine, mais je ne sais pas si je dois aller. Mais est-ce que tu as déjà eu rêvé de la Chine ? Est-ce que tu as eu à cœur ? Non, ben, ça ne vient pas de Dieu. Oui, mais moi, il m'a dit que... Mais ça ne vient pas de Dieu. T'es sûr ? Ben, certain. Parce que la prophétie vient toujours confirmer quelque chose que Dieu a placé dans ton cœur. Ok, je continue. Donc, examinez les prophéties comme quelque chose qui vient de... Est-ce que Dieu vous l'a dit premièrement ? Et dans cette église, si quelqu'un vient vous voir et qui vous dit, je ne sais pas, j'ai une parole de Dieu pour toi, etc., que vous ne connaissez pas, faites très attention. Faites très attention. Et même moi, je vous autorise, quelqu'un que vous ne connaissez pas, dites-lui, écoute, garde-la pour toi. Moi, je fais attention à qui prie sur ma vie. Je ne prends pas la prière de tout le monde. Et ça m'arrive même une fois de dire à une personne, ce que tu me dis, je ne le reçois pas de Dieu. Vous êtes là ? Ok, je continue. L'Église fonctionne comme un corps humain. Au contraire, les parties du corps nous paraissent insignifiantes, particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins, celles dont nous prenons le plus grand soin et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on les honore davantage, celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun de ses membres ait le même souci les uns des autres. Un membre souffre-t-il, tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les autres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ et que chacun de vous en particulier est un membre. Tu fais partie de ce corps-là. Et après, il parle des rôles. J'avance, on est très avancé en j'avance, mais j'ai pas le temps. Il parle des rôles dans l'Église, il parle des charismes, etc., etc. Ce que je veux dire par ici, c'est que quand il y a une personne au milieu de nous qui souffre, toute l'Église souffre. Ça a été le cas la semaine dernière. On a eu un départ d'un frère de l'Église. Et ce qui a été touchant pour moi, c'est de voir que toute la braise, toute l'Église dans laquelle étaient nos frères et sœurs, eh ben, littéralement, c'est comme si tous ensemble, à ce moment-là, on souffrait avec le membre du corps qui souffre. C'est ça, l'Église. C'est que tu as des gens qui rient avec toi, tu as des gens qui pleurent avec toi. Et je termine avec ça. L'Église est aussi à l'image d'un troupeau, comme une protection. Vous vous rappelez l'image du troupeau, je vous la définis ici, mais très simple. C'est Jésus qui dit, parmi vous, un homme a 100 brebis, il en perd une, il laisse les 99 dans son enclos, il part chercher celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il l'a trouvée, il est tout joyeux, il la met sur sa brebis, sur ses épaules, il rentre chez lui, il fait une fête. Et je termine avec ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette petite brebis a quitté le cadre, la protection, l'enclos du bon berger? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle s'est disputée avec une autre brebis. Peut-être qu'elle a dit « Oh là là, j'en ai marre de l'enclos, j'ai envie de l'herbe le plus fraîche ailleurs. » Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a été... J'ignore les raisons de pourquoi elle est hors de la protection, hors de l'enclos, hors de celui qui vient la nourrir. Mais la réalité, celle-ci, c'est que si tu mets la prochaine diapo, c'est que quand on sort sous la protection du bon berger, on va se mettre à gérer des loups dans nos vies. Des problèmes qu'on n'avait pas. Des problèmes que Dieu gérait avant. Et c'est comme si à ce moment-là, on dit « Mais Dieu, t'es où? Pourquoi t'as permis ça ?» Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Il y a cette dimension de dire que tu es libre de rester dans l'enclos, dans la protection du bon berger, ou de sortir. Et donnez-moi votre attention et je termine avec ceci. Le bon berger, c'est Jésus. Moi, dans ma vie, Jonathan Valbon, j'ai besoin du bon berger. C'est lui, c'est Jésus, c'est lui qui veille sur vous. Et là, on est au-delà du cadre d'une église. Le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, c'est lui. Le bon berger nous délègue une mission, un rôle, une autorité pour prendre soin de son troupeau. Vous êtes là? Pour prendre soin des brebis, pour nourrir, pour prendre soin, pour être là, pour une écoute, etc., etc. Et ce qui se passe, les amis, c'est que cette autorité, elle n'est jamais là pour être imposée. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai à rendre compte à Dieu de comment on a traité les brebis de son troupeau. Et j'ai une autre chose, et je veux vous le dire, c'est important. Vous ne m'appartenez pas, vous n'appartenez à aucun de nous ici. Vous appartenez à Jésus. Vous comprenez? C'est Jésus qui a donné sa vie pour vous, c'est pas Jonathan Valbon. Vous êtes là? Du coup, vous appartenez vraiment à Jésus. Et quand on parle de l'Église, ben l'Église est comme une bergerie qui est ouverte. Elle est ouverte constamment pour laisser ceux du dehors rentrer, qui n'ont pas de bergerie. Mais elle est également ouverte pour laisser la possibilité à ceux qui veulent nous quitter de partir. Et je ne vais pas forcer les gens à rester ici. Les gens sont libres, vous êtes libres de partir. Vous êtes là? Et quand on enlève cette liberté individuelle, c'est là où ça devient sectaire. Donc, on a toujours la liberté d'aller. Et si vous restez dans cet enclos, c'est que vous sentez que la nourriture qui est donnée, vous savez dans votre cœur que Dieu vous place ici. Et c'est là où on construit ensemble cette glorieuse, cette belle famille des enfants de Dieu. Et je sais que c'est un message qui est peu prêché, pas prêché. Je crois que c'est la première fois que je prêche ce type de message-là. Parce que souvent, on a du mal à l'idée même d'être sous la mission d'un leader, parce que soi-même, on a vécu soit sous une relation abusive d'un leader, soit où une autorité même au-dessus de notre vie nous a fait du mal, et ou qui était manipulatrice, ou qui se glorifiait elle-même. Et souvent, quand on a vécu ce type de traumatisme-là, ça engendre en nous une forme de rébellion. ça engendre en nous une crainte, une peur. On a du mal à faire confiance à nouveau. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. On a du mal à l'idée de dire « est-ce que je peux faire confiance ?» Je vous invite simplement à fermer les yeux. Mais pour moi, la clé à accepter de faire confiance, l'antidote à accepter d'être sous l'autorité de Christ, de faire à nouveau confiance, d'accepter l'amour d'un berger, l'amour, mais peut-être même de refaire confiance à un mari, à une femme, passe par ce besoin de guérison et de relâcher. Et je ne sais pas où est votre histoire. Je ne sais pas si vous avez été blessé par l'Église, par des leaders. Et si c'est le cas, eh ben, au nom de ces leaders, peut-être qu'ils ne le feront pas, je veux vous demander pardon. Si moi-même, à un moment donné, dans mes paroles, dans mes actions, je vous ai blessé, je vous en demande pardon. Je vous prie de croire que mon cœur est toujours de vouloir amener cette Église à la maturité, à les faire grandir en Jésus. Mais il y a vraiment cette dimension de dire, ok, si même vous avez besoin de parler, de pardonner à l'Église qui peut-être vous a blessé, à l'Église qui a fait que vous avez quitté cet enclos de protection que Dieu a prévu. Quand Dieu a amené le troupeau, il a pensé l'Église, il l'a voulu de toute éternité. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes loin du troupeau. Vous n'avez pas de troupeau, vous n'avez pas de bergerie. Je vous en prie, ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul dans la nature. Et je sens, et je priais ce matin, je sentais que Dieu allait se mettre en quête, en recherche de cette brebis qui est égarée, cette brebis qui est perdue. Cette brebis qui fait que je me sens seul. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de braise, je ne suis pas connecté au corps. Il est temps pour toi de revenir à la maison. Il est temps pour toi de te regreffer au corps et de reprendre la vitalité, le sang, de reprendre vie. Seigneur, je te prie maintenant de faire une œuvre de guérison, de consolation. Je te prie que nous acceptions ensemble d'être en intersoumission les uns les autres. Et il y a quelque chose qui est très important que je voulais vous dire, c'est que Jonathan Valbon ici, même le leadership, que ce soit les barbes, les gabias, personne n'a plus de valeur que quiconque. On est tous égaux et enfants de Dieu dans cette église. Je ne suis pas supérieur à quiconque. Que tu aies une heure de vie chrétienne ou 25 ans de vie chrétienne, je ne suis pas supérieur à toi. La seule chose que j'ai aujourd'hui, c'est un rôle que Dieu m'a confié. Un rôle de frère aîné dans sa maison, avec une autorité que Dieu donne. Mais c'est tout. Toi aussi, tu as une autorité. Et l'idée, c'est qu'on soit soumis à ce bon berger, soumis les uns les autres à cette vision qui est donnée, afin de grandir et de vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.